Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. L'extrême droite de nouveau aux portes du pouvoir en Autriche. S'il est élu à l'issue du scrutin législatif, aujourd'hui le conservateur Sébastien Kurz pourrait en effet diriger avec le FPE. Nathanaël Charbonnier suit depuis Vienne le vote des Autrichiens. Nous serons en direct au début de ce journal. L'organe de communication du Parti communiste chinois, le Quotidien du Peuple, lance une application en anglais. Pékin, qui cherche à renforcer son influence à l'international. Analyse à suivre de Raphaël Quinlis. Conséquence du scandale Weinstein aux États-Unis, la parole des femmes se libère aussi en France, via Twitter notamment. Explication de Valentine Joubin dans un instant. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du globe et Nabila Hamel. L'Union européenne a les yeux rivés sur l'Autriche aujourd'hui, quelques mois après une élection présidentielle à risque. Les élections législatives anticipées de ce jour pourraient mener à la formation d'une coalition avec l'extrême droite. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 6h ce matin, vote marqué par la montée des partis populistes et anti-migrants, mais aussi par l'ascension fulgurante du jeune conservateur Sébastien Kurz. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Vienne, dans le bureau de vote où le candidat de droite issu des rangs de l'EVP devait voter ce matin. Il est très bien placé pour devenir le prochain chancelier.
Eh oui, celui qui est présenté comme le futur chancelier est arrivé à pied pour voter. Il faut dire qu'ici à Vienne, il fait un temps splendide. Soleil, ciel bleu comme la couleur du parti de Kurz, qui est le bleu turquoise. Nous sommes dans le quartier Medlin, dans le 12e arrondissement de Vienne. C'est l'un des arrondissements les plus pauvres de la ville et cela tombe bien pour Sébastien Kurz, leader du Parti populaire, qui aime bien rappeler qu'il est le fils d'enseignante, qu'il a arrêté ses études pour faire de la politique. Kurz est donc arrivé au bras de sa compagne, grand sourire, mais presque gêné de se retrouver ainsi au milieu de la centaine de journalistes présents. Il a pris la parole quelques secondes juste pour demander aux Autrichiens d'aller voter.
Je viens d'aller voter, j'ai déposé mon bulletin dans l'urne et j'espère que beaucoup d'Autrichiennes et d'Autrichiens exerceront leur droit de vote et participeront. Bien sûr, j'espère qu'on aura un bon résultat pour qu'un changement soit enfin possible en Autriche.
Voilà, son principal opposant, le social-démocrate Christian Kern, a lui voté un petit peu plus tôt dans la matinée. À Vienne, Nathanaël Charbonnier pour France Culture.
Merci Nathanaël Charbonnier et merci à Hélène Langlois pour les moyens technique. Focus maintenant sur la candidate des Verts de cette élection en Autriche, la féministe Ulrike Lunacek. C'est elle qui a repris les rênes du Parti Vert après avoir porté Alexander Van der Bellen à la présidence du pays l'an dernier. Mais depuis, le parti Die Grünen a éclaté. Ulrike Lunacek n'est créditée que de 4 à 6 % des voix. Son portrait est signé Clémence Alézard.
Ancienne vice-présidente du Parlement européen, Ulrike Lunacek, 60 ans, est la seule femme à représenter un grand parti lors de ces élections. Mais loin de s'en réjouir, l'ancienne militante féministe, première personnalité politique ouvertement lesbienne depuis 25 ans, fustige la persistance des inégalités femmes-hommes. C'est la tonalité de son discours à l'ouverture de la première conférence européenne lesbienne dans un palais viennois où nous la rencontrons.
Quand je suis été à l'école, le mot lesbienne n'existait pas. Je n'ai pas le connu. Je suis c'était féministe avant d'être lesbienne. Et pour ça, pour moi, l'espace des femmes, ou soit hétéro ou lesbienne, c'est très important. Parce que nous vivons toujours dans un monde où les droits des femmes n'existent pas assez. Hein? Et il y a dans tous les pays toujours la discrimination des salaires, de la violence. Il y a toujours le plafond de verre. Nous vivons dans un patriarcat. Hein? C'est une réalité.
Pour Ulrike Lunacek, hors de question de lisser son discours, quand bien même, dit-elle, la société s'extrême-droitiserait. Elle n'hésite pas à condamner l'islamophobie croissante, la montée des nationalismes en Europe et à promouvoir l'accueil des réfugiés. Se font parler à un coup, en 2014, lors d'une marche des fiertés à Vienne, elle est attaquée à l'acide butyrique par des fondamentalistes chrétiens. Mais Ulrike Lunacek balaye le sujet. Ils sont nombreux ceux qui veulent qu'on vive caché, dit-elle, mais il ne faut jamais céder.
Merci Clémence Alézard pour ce portrait d'Ulrike Lunacek. En Asie centrale, ce n'est pas un petit événement pour le Kyrgyzstan. Une élection présidentielle est en cours pour élire le 4e président de l'histoire de ce pays indépendant depuis la chute de l'URSS en 1991. Pour la première fois, le vote se déroule dans des conditions pacifiques. 11 candidats sont en lice. Un deuxième tour devrait être nécessaire pour départager les deux favoris, les ex-premiers ministres Jemenkov et Babanov. En Chine, la semaine sera marquée par l'organisation l'organisation du 19e congrès du Parti communiste chinois, plus grand parti du monde, avec 89 millions de membres. Cette réunion devrait offrir un deuxième mandat de 5 ans à l'actuel président Xi Jinping. Et à cette occasion, le quotidien du peuple, l'organe de presse officiel du parti, lance une application en anglais, Raphaël Quinlis.
Pour renforcer l'influence de Pékin à l'international, la Chine use de tous les moyens et les médias ne font pas exception à l'approche du congrès du Parti communiste chinois. Le quotidien du peuple, principal média du Parti communiste chinois, lance une application en anglais destinée à rendre compte de l'évolution de la Chine à l'international. Cette semaine, n'importe qui pourra donc suivre en direct les informations diffusées lors du congrès, une information directement contrôlée par le parti qui est bien conscient que l'image de la Chine est largement créée par de grands groupes internationaux. Ainsi, pour renforcer son image à l'international, la Chine veut renforcer son contrôle sur la communication. Elle veut à présent transmettre sa propre vérité et vendre l'image d'une Chine moderne, d'un pays harmonieux mené par un grand leader. L'application n'aura donc que pour objectif de raconter des histoires qui mettent en avant le parti et le président Xi Jinping, transmettre au monde la théorie et la philosophie du Parti communiste chinois. Et en plus du quotidien du peuple, la Chine, le Parti communiste, dispose de plusieurs canaux de diffusion à l'international, parmi lesquels l'agence de presse Chine Nouvelle, la télévision centrale de Chine, qui est déclinée en une quinzaine de langues. Mais avec cette application, la Chine cherche à centraliser sa communication, et ce pour qu'elle devienne plus intelligible, pour balancer l'influence des autres médias dans le pays et à l'étranger. Car si les médias d'État prennent de plus en plus d'ampleur, les médias indépendants dans le pays et les sites des médias étrangers, eux, sont étroitement surveillés et même bloqués sur Internet, à l'image du New York Times ou du Monde.
Correspondance à Pékin de Raphaël Quinlis. En Syrie, l'alliance arabo-kurde des FDS, soutenue par les États-Unis, termine de reprendre les dernières poches de résistance djihadiste à Raqqa, capitale du groupe État islamique. La bataille est entrée dans sa phase finale, annoncent les FDS ce midi. Un accord a été trouvé hier pour évacuer les civils. Près de 300 mercenaires ont aussi accepté de se rendre. Aux États-Unis, le bilan humain s'alourdit un peu plus à cause des incendies qui touchent le cœur viticole de la Californie. 40 personnes au moins ont perdu la vie et 235 sont maintenant portées disparues. Les États-Unis, où Hollywood a décidé de se désolidariser d'Harvey Weinstein, le producteur de cinéma accusé de viol et d'agression sexuelle par une trentaine d'actrices, a été exclu hier de l'Académie des Oscars. Dans le pays, le débat continue aujourd'hui sur un plan plus médical avec des questionnements sur la réalité de l'addiction sexuelle. Bonjour Valentine Joubin.
Bonjour.
En France aussi, ce scandale permet à la parole des femmes de se libérer.
Oui, à la liste des victimes américaines s'ajoute le nom de plusieurs actrices françaises. Léa Seydoux, Judith Godrèche ou encore Emma Decaune, toutes les trois disent avoir été harcelées par Harvey Weinstein. Mais ce mouvement de libération de la parole féminine dépasse largement le seul monde du cinéma. Depuis vendredi, un hashtag, un mot-clé, a fait son apparition sur Twitter. Balance ton porc, lancé par Sandra Müller, une journaliste. Elle-même raconte les propos d'un rédacteur en chef. Tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. Une autre journaliste de Radio France, Julia Foyce, témoigne elle aussi. Un red chef, grande radio, petit couloir, m'attrapant par la gorge, un jour je vais te baiser, que tu le veuilles ou non. C'était il y a 20 ans, Julia Foyce en avait déjà parlé à l'époque et ça n'avait eu aucune conséquence. Elle pensait que les mentalités étaient en train d'évoluer, sauf que...
C'est exactement comme il y a 20 ans. C'est-à-dire que, d'abord, on me demande si je suis pas un peu mytho, parce qu'évidemment, hein, une victime, quand elle parle d'abord, elle est suspecte d'avoir menti. Ensuite, on me dit « balance un nom », parce que si tu dis rien, c'est risible. Si tu dis rien, ça sert à rien. Assez rapidement, je me fais traiter de lâche. Comme il y a 20 ans, tout est fait pour que, à l'arrivée, toutes les femmes qui auraient pu se dire « allez, je vais rejoindre le mouvement, je vais dénoncer ce phénomène-là, je vais ouvrir ma gueule, je vais parler », je pense qu'en voyant ce que je me prends dans la gueule, ce matin, elles ont renoncé.
Julia Foyce ne donnera pas le nom de son harceleur. Pas envie de se livrer à du lynchage. L'important pour la journaliste comme pour l'association Oser le Féminisme, c'est de montrer l'ampleur du phénomène, que le harcèlement sexuel touche toutes les femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu professionnel.
Merci Valentine Joubin pour vos explications. Il est 12h40 sur France Culture, la face cachée du globe. C'est avec vous, Nabila Hamel. Bonjour.
Bonjour, Anne. L'accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC ne pourra pas être modifié pendant 12 ans. La Cour constitutionnelle a validé jeudi une loi en ce sens. 12 ans, c'est l'équivalent de 3 mandats présidentiels. En clair, l'ancien président conservateur ne pourrait pas y toucher s'il revenait au pouvoir. Álvaro Uribe était un farouche opposant à l'accord conclu avec la guérilla. L'US Air Force a largué 751 bombes en septembre sur l'Afghanistan. Ce niveau jamais atteint depuis 2010 est dû au revirement stratégique annoncé en août dernier par le président Donald Trump. 11 candidats, dont le président sortant Tambayev, et 2 favoris pour l'élection présidentielle de ce dimanche au Kyrgyzstan, qui souhaitent installer une transition en douceur, un scrutin inédit et surtout un test pour le pays dans une Asie centrale habituée aux régimes autoritaires et aux présidents à vie. Les écoles sont fermées jusqu'à mardi aux Seychelles, une mesure de précaution prise après la découverte de 2 cas présumés de peste pulmonaire. Des tests complémentaires doivent déterminer si les 2 personnes en sont vraiment atteintes. Elles ont séjourné sur l'île voisine de Madagascar où sévit la maladie. Cap sur le Qatar, sous blocus depuis début juin. Son puissant voisin saoudien et d'autres monarchies du Golfe ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha. Les frontières terrestres sont également fermées, à part une exception pour le pèlerinage à la Mecque. Les avions des compagnies qataries n'ont plus le droit de survoler l'espace aérien saoudien. Les voisins de l'émirat gazier lui reprochent de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran. Doha ne veut pas céder, je cite, « à une volonté de mise sous tutelle du pays ». Comment le Qatar vit cet embargo? Pierre Conessa est un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Il a publié « Docteur Saoud et Mister Jihad » aux éditions Robert Laffont en 2016. Pierre Conessa revient du Qatar et témoigne d'un pays qui semble bien résister.
Il y a eu une période d'affolement que tout le monde reconnaît dans les jours qui ont suivi la déclaration d'embargo. Et puis assez rapidement, des tendances fortes se sont dégagées. D'abord, l'approvisionnement a été retrouvé tout de suite. Le Qatar a pu combler par l'argent dont il dispose les nouveaux approvisionnements. Donc ça lui a coûté environ 100 millions de dollars par jour pendant les premiers jours. Et puis très rapidement, les flux sont arrivés. Et ils ont constaté 2 choses. D'abord, c'est que les produits arrivant d'Europe, d'Azerbaïdjan, de Turquie, d'Iran, etc., étaient meilleur marché que les produits alimentaires, par exemple, qu'ils achetaient en Arabie Saoudite. C'est quand même une conséquence surprenante. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, le Qatar se tire très bien de cette situation d'embargo, et ce sont plutôt les pays qui ont déclenché l'embargo, essentiellement d'ailleurs les Émirats et un peu l'Arabie Saoudite, qui semblent en souffrir. C'est-à-dire que quand des produits arrivent par Air France, qui a parfaitement le droit de survoler le territoire saoudien, etc., ces flux ne sont pas détournés. Et donc, d'un seul coup, la réexportation par Dubaï s'est arrêtée, mais par contre, elle a été compensée par des moyens de transport qui ne sont pas touchés par l'embargo. Alors une remarque économique qui me paraît intéressante, c'est que Dubaï est finalement triplement pénalisé par la nouvelle situation parce qu'ils ne font plus de réexportation vers Qatar, ce qui faisait à peu près 600 millions de dollars d'échanges chaque année. Évidemment, l'Iran va aussi détourner une partie de son flux directement vers Qatar. Les Qataris ont eu l'astuce de ne pas couper le pipe Dolphin, qui approvisionne en gaz Dubaï.
Est-ce qu'il y a un changement dans le quotidien des Qataris? Est-ce qu'ils ressentent déjà des pénuries?
Enfin, moi, j'ai visité des grandes surfaces. Effectivement, les rayonnages sont pleins. Il n'y a absolument aucun problème. Là, vraiment, on n'a pas l'impression qu'il y a un seul rayon qui soit vide. La posture, si vous voulez, d'embargo a été tellement brutalement décidée qu'elle a aussi beaucoup pénalisé des Qataris qui se trouvaient à l'étranger. Par exemple, il y a des Qataris qui se trouvaient en Arabie Saoudite et qui se sont retrouvés empêchés de reprendre l'avion de Qatar Airways puisque les avions de Qatar Airways ont été obligés de repartir à vide. Et il a fallu que le gouvernement qatari loue des avions à Oman ou à Koweït, si vous voulez, pour pouvoir transporter ses propres sujets et les ramener au pays. Tout ça donne l'impression d'un sentiment, si vous voulez, de réaction nationaliste au Qatar, qui se traduit évidemment, comme souvent dans ces pays, par la multiplication des portraits du chef, si vous voulez, de l'émir Tamim, pour montrer que vraiment, il est populaire. Mais il y a effectivement, y compris aussi chez les étrangers travaillant au Qatar, un sentiment d'injustice, qui évidemment donne pour effet de conforter le régime, à mon sens. Finalement, cet embargo ne marche pas.
Et ça veut bien dire que, faute de solutions politiques, étant donné que cette crise est quand même émane de 3 dirigeants d'une génération nouvelle, l'idée qu'ils aient à reculer leur ferait perdre la face. Et aujourd'hui, ils sont dans la phase de la guerre de la communication. Par contre, si toute cette campagne de com ne marche pas, ben il faudra qu'ils se disent, au bout de quelques mois, qu'il faut passer à une autre forme de pression. Et cette pression, ce serait évidemment la pression sur les entreprises étrangères.
Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Nous n'avons pas le livre, mais nous en avons l'auteur. C'est la réponse du gardien d'une prison turque à un détenu qui demandait un ouvrage précis. Cette anecdote, racontée par Cem Dündar à la Foire du Livre de Francfort, illustre à elle seule les atteintes à la liberté d'expression depuis le coup d'État manqué de juillet 2016 en Turquie. Le rédacteur en chef du journal d'opposition Cumhuriyet était lui-même emprisonné l'an dernier, au même titre que 180 autres journalistes et écrivains. À dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre après-midi, un dimanche de soleil partout en France et les températures toujours très douces. 16 à Strasbourg, 18 à Brest et Marseille, 19 à Lyon et Lille, 20 à Paris, 23 à Bordeaux et toujours la maximale pour Biarritz avec 24 degrés. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux. À la technique, c'était Jean-Guilain Meige.